Vous écoutez RTL.
Il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 20 février, le Sénat attaque l'Élysée à travers l'affaire Benalla. La sécurité du président a été affectée, affirme le rapport de la commission d'enquête. Alexandre Benalla a menti, il sera poursuivi. Mais d'autres collaborateurs du président n'ont pas dit toute la vérité. Et les sénateurs pointent des dysfonctionnements majeurs à l'Élysée. Détail à suivre, l'un des membres de cette commission d'enquête, François Grosdidier, est l'invité d'RTL Midi. L'homme soupçonné d'avoir insulté Alain Finkielkraut est en garde à vue à Mulhouse. C'est un militant pro-palestinien de 36 ans. Air France en haute altitude, la compagnie a plus que doublé son bénéfice l'an dernier et ce malgré la grève. Dans RTL Midi aussi, apprenez les gestes qui sauvent. Une proposition de loi veut même instaurer un statut de citoyen sauveteur pour inciter ceux qui hésitent encore à se former. Chaque année, 40 000 personnes meurent d'une crise cardiaque dans notre pays. Vous êtes plutôt tablette ou smartphone ? Samsung vous propose de ne plus choisir. Son nouveau téléphone sera pliable et donc dépliable. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle.
C'est fou, on se croirait au mois d'avril.
Oui, c'est vrai. En fait, on aura tous les ingrédients côté température d'un mois d'avril avec des températures qui vont grimper par rapport à hier. On sera entre 11 et 15 degrés au moins dans la moitié nord et de 15 à 18, 19 degrés dans le sud. Donc oui, des températures d'avril. Tout ça avec beaucoup de soleil. Bon, il restera ici ou là quelques plaques de nuages, notamment dans le nord-ouest ou encore du côté de la Bourgogne. Mais globalement, c'est quand même bien le soleil qui va très largement s'imposer cet après-midi.
La question du jour sur RTL.fr, connaissez-vous les gestes qui sauvent ? Eh bien non, à 59%, 35% de oui seulement. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, ce sera évidemment une question essentielle, comme l'affaire Benalla qui vous fera réagir, et notamment la commission qui pointe une série de dysfonctionnements majeurs au sein des services de l'État. Pratiquez-vous également le télétravail et non pas le travail à la télé ? Et pour quelles raisons ? 3210, tout à l'heure, entre 13h et 14h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
Les sénateurs n'aiment pas qu'on leur mente, qui plus est sous serment. L'affaire Benalla aura donc de nouvelles suites judiciaires, c'est ce que réclame en tout cas la commission d'enquête sénatoriale qui a entendu à deux reprises l'ancien collaborateur de l'Élysée. Mais le Sénat va ce matin beaucoup plus loin et s'en prend directement à l'Élysée. La sécurité du président de la République a été affectée. La Haute Assemblée met donc en cause le fonctionnement global de l'entourage d'Emmanuel Macron. Bonjour Dominique Tenza.
Bonjour.
Vous êtes au Sénat en direct pour RTL. La charge est lourde. On commence par ces poursuites réclamées contre Alexandre Benalla et Vincent Crase pour faux témoignages.
Oui, RTL vous en parlait. Hein. Dès hier, la commission d'enquête du Sénat décide de saisir la justice, en l'occurrence le procureur de la République, pour faux témoignages. Sont visés, vous le disiez, Alexandre Benalla et Vincent Crase, en cause notamment l'histoire de ce contrat russe auquel les deux hommes semblent liés, alors qu'ils avaient, devant la commission en septembre, juré n'être en rien impliqués dans la négociation de ce contrat. Conflit d'intérêts majeur, explique le Sénat. C'est l'un des reproches faits à l'ancien chargé de mission, mais pas le seul. Écoutez le président de la commission, Philippe Bas, le dossier est lourd.
Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, maintien en possession d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg.
Que de chemin parcouru, effectivement, que de révélations. Depuis les premiers événements de la place de la Contrescarpe, 7 mois d'audition, plus d'une quarantaine de personnes interrogées et autant d'incohérences que les sénateurs mettent aujourd'hui en lumière.
Et oui, puisque d'autres collaborateurs parmi les plus proches du chef de l'État sont soupçonnés, eux non plus, de ne pas avoir dit toute la vérité.
Absolument, et les accusations portées sont graves car elles concernent les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. On parle là de son directeur de cabinet, du secrétaire général de l'Élysée, tous soupçonnés, selon le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur, d'avoir voulu en somme étouffer un scandale.
Contrairement aux affirmations des proches du chef de l'État, il apparaît qu'Alexandre Benalla, fort de la confiance et de la liberté d'action qui lui était accordée, s'était arrogé un rôle central dans le fonctionnement des services de sécurité de ce qui est la cinquième puissance du monde.
On s'attendait à ce que le Sénat frappe fort avec ce rapport. Dans ce domaine, il ne déçoit pas et démontre à qui en doutait encore l'utilité en France d'un contre-pouvoir.
Dominique Tenza. Avec nous, François Grosdidier, sénateur Les Républicains, membre de cette commission d'enquête du Sénat justement sur l'affaire Benalla. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexandre Benalla a menti, vous demandez à ce que la justice soit saisie, mais ce qui est quand même beaucoup plus étonnant, c'est que le Sénat s'en prend à travers cette affaire au fonctionnement de l'Élysée. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'affaire Benalla est devenue une affaire d'État ?
Mais le Sénat ne s'en prend à personne. Le Sénat est dans son rôle d'assemblée parlementaire, sauf que il est la seule chambre à jouer réellement ce rôle en France, puisque l'Assemblée nationale n'est qu'une chambre d'enregistrement, donc à jouer le rôle d'assemblée parlementaire dans toutes les démocraties modernes, de contrôle de l'action de l'exécutif. Et il s'agit pour nous de voir le bon fonctionnement des institutions, d'identifier, d'analyser les dysfonctionnements et de faire des préconisations pour répondre à ces dysfonctionnements. Il ne s'agit pas pour nous, contrairement aux magistrats, de juger les hommes. Donc nous avons à partir de cette affaire dite Benalla, mais on a quelqu'un qui mettait la haute main sur la sécurité de la présidence de la République, on a noté absolument tous les dysfonctionnements, on propose aujourd'hui les mesures correctives. Dans ces auditions, manifestement, beaucoup nous ont menti, pas que M. Benalla.
Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, vous ont menti sous serment ?
Ils ont commencé par nous dire que M. Benalla s'occupait de tout sauf de sécurité, jusqu'à ce qu'on découvre que M. Benalla s'occupait aussi de sécurité. À ce moment-là, ils ont concédé que dans ses missions, il devait coordonner plein de choses, dont la sécurité. Puis après, il était devenu l'homme chargé de coordonner les forces de sécurité comme nos militaires et GSPR. Mais même pour coordonner, on ne comprenait pas pourquoi ils devaient posséder une arme. Surtout que le service de protection nous disait que c'est absolument pas nécessaire et même dangereux dans un dispositif. On est allé d'incohérence en invraisemblance, et je ne parle pas là des passeports ou des contrats russes. Rien que sur le dispositif de sécurité, il y a eu une succession, de contradictions, d'invraisemblances, de contre-vérités. Alors que s'ils avaient
dit tout de suite... Que vous accusez ces trois personnes les plus proche d'Emmanuel Macron, vous les accusez de parjure et vous demandez aussi pour ces trois personnes que la justice soit saisie.
On accuse de rien. On note les contradictions.
Oui. Et vous saisissez la justice ?
Un décalage. Et à ce moment-là, notre responsabilité, c'est de saisir la justice. D'ailleurs, il n'y a rien de politicien là-dedans. Nous l'avons fait dans une commission d'enquête à laquelle j'ai participé sur la qualité de l'air, où nous avions un professeur de pneumologie, chef de service à Paris, qui avait menti devant la commission en s'exprimant sur la pseudo-innocuité du diesel, alors que lui-même était payé par un groupe pétrolier, avait oublié de nous le dire.
Oui, donc vous êtes en train de m'expliquer, vous êtes en train de m'expliquer que vous n'êtes pas en train d'en faire une affaire politique.
Mais pas du tout, et on s'est toujours refusé à le faire. D'ailleurs, si on a une quasi-unanimité, il n'y a que les macronistes, un non-inscrit, qui se sont abstenus dans le rapport, mais s'il y a une unanimité de droite-gauche, c'est que nous analysons des faits objectifs, avec le même sens de l'intérêt général. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de saisine de la justice si on nous avait dit la vérité tout de suite. Si on nous avait dit que M. Benalla était venu avec le staff de campagne en s'occupant de la sécurité, que ça s'était entrechoqué avec les forces de police et de gendarmerie, qu'il y a eu quelques dysfonctionnements, etc., recadré, on aurait bien préconisé que sécurité reste aux forces publiques, mais ça en serait resté là. Le problème, c'est que le pouvoir a voulu cacher une situation, il a été fait, et il nous place aujourd'hui dans l'obligation de constater qu'ils nous ont menti.
François Grosdidier, qu'est-ce qu'il y a de plus grave au fond dans cette affaire ? La vraie fonction d'Alexandre Benalla ou le fait que l'Élysée l'a couvert ?
Je pense, c'est un peu, vous savez, comme certaines affaires américaines. Où finalement, c'est pas le fond de l'affaire qui est gênant, c'est le mensonge. Et le mensonge devant une commission d'enquête parlementaire, en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est une mutation de notre démocratie, qui veut beaucoup plus de transparence, qui est beaucoup plus exigeante, et qui veut qu'un Parlement enfin exerce une vraie mission de contrôle. Pas de contre-pouvoir en ce qu'il s'agit de gêner le pouvoir, mais de contre-pouvoir en ce qu'il faut empêcher le pouvoir d'abuser du pouvoir. Et c'est effectivement une nouvelle époque qui s'ouvre et où le Sénat est le seul à pouvoir jouer ce rôle. Et il l'a démontré, c'est sain pour la démocratie.
Et il y aura des suites judiciaires. Merci François Grosdidier d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci. Alexandre Benalla, donc, où l'itinéraire d'un enfant gâché. En 9 mois, le collaborateur collaborateur d'Emmanuel Macron sera passé de l'Élysée à la prison de la Santé. Un juge a décidé de le placer en détention provisoire parce qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire. Quelles sont ses conditions de détention, Thomas Proto?
Alors d'abord, Alexandre Benalla n'est pas en quartier VIP, tout simplement parce qu'il a été supprimé à la maison d'arrêt de la Santé. Question d'époque, aujourd'hui, un statut spécial pour les people, ça ne passerait plus. En revanche, comme toutes les prisons, la Santé dispose d'un quartier pour personnes vulnérables. On y trouve aussi bien les détenus fragiles, susceptibles d'être pris à partie, comme les violeurs ou les pédophiles par exemple, que les détenus médiatiques, eux aussi potentiellement cibles des autres prisonniers. C'est donc là que Alexandre Benalla est détenu, cellule standard de 9 mètres carrés avec télé et plaque électrique. Et nouveauté spécifique à la Santé, un téléphone fixe sur écoute avec une liste de numéros limités soumise au juge. C'est le dispositif qui doit être généralisé dans toutes les prisons. Et même s'il arrivait à se procurer illégalement un portable, eh bien, le système de brouillage nouvelle génération empêcherait toute communication. C'est ce qu'assure l'administration pénitentiaire. Dernière précision, Alexandre Benalla bénéficie d'une cour de promenade séparée avec les autres détenus de son quartier. Parmi eux, on trouve par exemple le rappeur MHD ou les deux policiers du 36 quai des Orfèvres condamnés pour viol fin janvier.
Thomas Proutot. Le Conseil constitutionnel saisi par la défense de Nicolas Sarkozy, elle conteste son renvoi devant le tribunal correctionnel sur les dérapages financiers de sa campagne électorale de 2012. Elle considère que l'ancien président ne peut être poursuivi au motif qu'il a déjà été condamné en 2013 par le Conseil constitutionnel, justement sur cette même affaire de déplacement du plafond de ses dépenses. Or, une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. Dans un instant, l'homme soupçonné d'avoir injurié Alain Finkielkraut s'explique en ce moment devant les policiers.
RTL Midi
avec Christelle Robière.
Un visage rond, une barbe courte, un keffieh autour du cou. On a encore en tête les images de l'homme qui a insulté le philosophe Alain Finkielkraut samedi à Paris. Espèce de sioniste, elle est à nous, la France, lui a-t-il lancé. Une enquête avait été ouverte. Et bien cet homme de 36 ans qui tient un magasin de téléphonie mobile à Mulhouse a été placé en garde à vue, Jean-Alphonse Richard. Et il ne nie pas les faits.
Effectivement, ce gérant donc d'un magasin de téléphonie de Mulhouse en Alsace a reconnu sans difficulté que c'était bien lui. Sur les images vidéo, ce 16 février, il ne se cachait pas. C'est à visage découvert qu'il s'en était pris à Alain Finkielkraut. Cet homme de 36 ans, père de 5 enfants, très religieux, proche de l'islam salafiste, militant de la cause palestinienne, s'est finalement présenté lui-même à la police. Il a été placé en garde à vue vers 19h15 hier soir. Interrogatoire long et détaillé, nous dit-on. Cet homme est interrogé sur sa présence à la manifestation des Gilets jaunes, sur ce qu'il sait d'Alain Finkielkraut, questionné aussi sur les autres personnes autour de lui qui, elles aussi, ont proféré des insultes. Deux individus, l'un dont on aperçoit clairement le visage, un deuxième qui porte une capuche a priori identifiée aujourd'hui par les enquêteurs. Il est prévu de les placer eux aussi en garde à vue. Tous ces suspects sont bien sûr susceptibles d'être déférés désormais devant un tribunal.
Au lendemain de la mobilisation dans tout le pays contre l'antisémitisme, le chef de l'État participe ce soir au dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Gérard Larcher, le président du Sénat, a expliqué ce matin sur RTL qu'Emmanuel Macron allait s'adresser bientôt à toute la nation, car la lutte contre l'antisémitisme, a-t-il dit, est une grande cause nationale. L'ancien boxeur Christophe Détinger a quitté la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ce matin, condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé deux gendarmes. Sa peine a été aménagée et il rejoint le centre de semi-liberté de Corbeil-Essonne. À sa sortie ce matin, Alice Moreno, ses premiers mots ont été pour le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, c'est dans un nuage de fumigène coloré sous les applaudissements de ses proches que Christophe Détinger franchit la grille de la prison. Ses enfants lui sautent dans les bras, il embrasse son épouse et salue le mouvement des Gilets jaunes.
Ouais, 99% des gens qui sont dans ce mouvement sont honnêtes et ont faim. Maintenant, il reste 1%, moins d'1% des actes qui sont commis, comme le mien, qu'il faut qu'il soit puni, jugé. Mes coups, mes actes, bien sûr que je les regrette. Je vous remercie, j'aimerais profiter des quelques instants que j'ai avec ma famille. Je vous remercie.
Ses amis, sa famille déploient une banderole avec ce message. Christophe, où que tu sois, on ne te lâche pas. Son coach de boxe tente toujours de comprendre comment son protégé en est arrivé là.
Christophe, quand j'ai vu les images, je l'ai dit maintes fois, j'ai dit c'est pas possible. Il a dû se passer quelque chose, il y a eu un élément déclencheur. On a vu une femme qui a été frappée, ça m'a bien expliqué les gestes qu'il a fait.
Pas de doute non plus pour l'épouse du boxeur. S'il a agi de la sorte, c'était pour défendre cette manifestante. Elle est évidemment soulagée que son mari retrouve une semi-liberté.
Parce qu'on sait qu'on va le retrouver, on va pouvoir le serrer dans nos bras dehors. Là, c'est une semi-liberté, donc c'est une semi-victoire pour nous. Et nous rentrons chez nous tous les cinq.
Christophe Détinger pourra donc sortir du centre de semi-liberté chaque jour, mais il est tenu d'y dormir pendant un an.
Un reportage Alice Moreno. Le ciel est bien dégagé pour Air France. Le Canadien Benjamin Smith, patron du groupe depuis septembre, présente son premier bilan. Et le bénéfice du groupe Air France KLM a plus que doublé l'an dernier, plus 150%. Et ce, malgré la grève du printemps dernier, Eric Vanier.
Oui, 15 journées de grève qui ont coûté à Air France 335 millions d'euros. Et pourtant, vous l'avez dit, les bénéfices de la compagnie sont en nette hausse. 409 millions de profits dégagés l'an dernier. Toutes les activités du groupe progressent, y compris le fret. La performance est d'autant plus remarquable que dans le même temps, le prix du kérosène, premier poste de dépense dans l'exploitation d'un avion, a fortement augmenté et que le contexte en fin d'année avec le mouvement des Gilets jaunes n'incitait pas vraiment aux déplacements et aux voyages. Mais depuis l'été dernier, la paix sociale est revenue. Aucun mouvement de grève pendant la pleine saison estivale. Des accords salariaux ont été signés avec toutes les catégories de personnel, y compris les pilotes, à mettre à l'actif du nouveau patron venu du Canada, Ben Smith, qui a tenu à dire quelques mots en français.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir pour la présentation des résultats annuels 2018. C'est une première pour moi. Je voulais simplement vous dire à quel point je suis heureux et fier de diriger un groupe comme Air France KLM pour incarner la nouvelle dynamique que nous voulons impulser.
Et Ben Smith a exprimé toute sa confiance dans le personnel de la compagnie et l'avenir du groupe.
Éric Vanier, c'est la dernière chance. Laurent Berger de la CFDT n'est pas optimiste. À quelques heures de l'ultime séance de négociation sur l'assurance chômage, le désaccord persiste sur la taxation des contrats courts et il est fort probable que l'État va reprendre la main et réformer le système d'autorité par décret. En tout cas, pour les cadres, c'est le plein emploi. Le nombre de recrutements a bondi de 11% en 2018 et devrait même atteindre un niveau record cette année après 6 ans de hausse. Il devrait y avoir environ 280 000 l'embauche. Christophe Ponzio, quels sont les profils les plus recherchés ?
Eh bien, des profils jeunes, entre 1 et 10 ans d'expérience, ce sont eux qui séduisent le plus les recruteurs. Pour ce qui est des secteurs à privilégier, vous ne devriez pas avoir trop de soucis à être embauché si vous êtes informaticien ou vous cherchez à être recruté dans les télécommunications. Les ingénieurs et les postes en recherche et développement sont aussi très prisés, des fonctions qui sont en tête du classement. Enfin, les cadres travaillant pour les activités juridiques, de conseil ou comptable ont le vent en poupe. Tous ces secteurs devraient représenter 44% des embauches cette année. Pour les autres, l'industrie continuera à être dynamique. 4 fois plus de recrutements dans ce secteur en un an. Malgré un ralentissement des chantiers, la construction devrait toujours bien se porter. En revanche, le secteur du commerce devrait souffrir avec moins de recrutements. Au final, le taux de chômage des cadres est estimé à 3,8%, plus de 2 fois moins que pour l'ensemble de la population.
Décryptage Christophe Ponzio. Dans un instant, on apprend les gestes qui sauvent.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Je, tu, il, nous pouvons tous sauver quelqu'un à condition de connaître les gestes d'urgence. Chaque année, les arrêts cardiaques font 40 000 morts dans notre pays. C'est 10 fois plus, pour vous donner une idée, que les morts sur la route. Et il n'y a que 5% de survie. Or, dans les pays anglo-saxons et scandinaves, on est plutôt à 30%. L'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité une proposition de loi pour sensibiliser chacun d'entre nous et créer un statut de citoyen sauveteur. Avec nous, Jean-Charles Collaroy, député La République en marche de l'Isère et auteur de cette proposition de loi, justement. Bonjour.
Bonjour.
C'est un sujet, monsieur Collaroy, qui vous touche directement. Votre compagne Céline a fait un arrêt cardiaque il y a 12 ans.
Oui, c'est ça, au réveil. Et j'étais à ses côtés, donc j'ai pu pratiquer les gestes qui sauvent. Et c'est vrai que c'est à la fois un événement qui nous a marqué, mais qui s'est terminé favorablement. Et c'est aussi pour ça que je suis sensibilisé pour faire avancer ce sujet.
D'autant qu'on se rend compte que 70% des arrêts cardiaques se passent devant des témoins et qu'à peine 20% de ces témoins connaissent les gestes qui sauvent.
Oui, aujourd'hui, effectivement, il est important que les premiers témoins, avant l'arrivée des secours, qui mettent en France généralement entre 10 et 13 minutes pour arriver, eh bien, ces premiers témoins, s'ils agissent, on peut sauver énormément de vies. Chaque minute qui passe sans geste de secours, c'est 10% de chances de survie en moins pour les victimes. Et il est important de faire savoir qu'on peut sauver énormément de vies. Si on passe de 7% à 14% de taux de survie, eh bien, on pourrait chaque année sauver 3000 vies. C'est un enjeu de santé publique majeur. Et c'est simple de se former. Ça prend 1h30, 2h et on apprend les gestes simples. Alerter les secours, masser, faire le massage cardiaque et puis utiliser un défibrillateur.
Alors, apprendre les gestes simples, c'est une chose. Mais votre proposition de loi va plus loin. Elle veut instaurer un statut de citoyen sauveteur. En quoi ça consisterait ?
Oui, ce statut, il est important. C'est pour dire que toutes les personnes qui vont intervenir sur quelqu'un qui s'effondre dans la rue d'un malaise cardiaque, eh bien, ils seront protégés. Il n'y a aucun risque à faire les gestes. On ne peut pas être poursuivi si on fait mal, parce qu'il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Et ensuite, ils seront aussi assurés et protégés si jamais il leur arrive quelque chose en se rendant sur le lieu d'une victime qui s'effondre.
Donc ça pourrait en quelque sorte susciter des vocations. On ne sera plus en train de se dire « mince, et si je n'arrive pas à sauver cette personne-là, je risque d'être poursuivi ».
Voilà, il n'y a aucun risque. Il vaut mieux faire les gestes, il faut faire les gestes. C'est un acte citoyen, c'est pour ça qu'on appelle ce statut sauveteur citoyen. C'est un acte de fraternité. On peut tous sauver son voisin, son collègue de travail, quelqu'un de sa famille. C'est 40 000 à 50 000 décès chaque année. C'est un enjeu de santé publique majeur.
Comment expliquez-vous qu'on soit aussi en retard en France sur les gestes qui sauvent, je pense par rapport aux Pays-Bas ?
En fait, en France, il y avait jusqu'à présent une culture de l'excellence des gestes qui sauvent. On pensait que c'était compliqué ou que c'était réservé à des secouristes, qu'il fallait une formation précise. Et aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui s'opère. On veut passer de 30% de la population sensibilisée à 80%. Et on explique que c'est simple, en fait, de faire les gestes de premier secours, d'apprendre à faire le massage cardiaque. Ça s'apprend rapidement. Et en fait, il vaut mieux que le massage soit un peu moins bien fait. Il n'y a pas d'excellence dans le massage, mais plutôt que de ne rien faire et d'avoir la peur de faire. Voilà. Donc on a un changement qui s'opère.
Et vous avez décidé de sensibiliser aussi nos élus, puisque vous avez appris les gestes qui sauvent ce matin à vos collègues députés à l'Assemblée nationale ?
Oui, sous le haut patronage de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, sous le parrainage de David Ginola, qui lui-même a été victime d'un arrêt cardiaque, eh bien, dans l'hôtel de l'AC, à l'Assemblée nationale, ce sont 300 personnes, plus de 300 personnes, des députés, des collaborateurs de députés, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui se forment à l'arrêt cardiaque aujourd'hui. Et c'est magnifique d'avoir ce symbole, le vote d'une proposition de loi à l'unanimité par l'ensemble des groupes, et cette formation avec plus de 300 personnes à l'Assemblée nationale.
Et voilà, faites comme les députés, apprenez les gestes qui sauvent. Merci Jean-Charles Collaroy d'avoir été l'invité d'RTL Midi. On est au pic de l'épidémie de grippe, elle touche toutes les régions, mais d'après Santé publique France, il y a moins de passages aux urgences. La grippe a coûté la vie à 2800 personnes depuis le début de l'épidémie. L'avenir se déroule, c'est le dernier slogan de la marque Samsung. Le géant asiatique doit dévoiler ses nouveautés aujourd'hui, dont un modèle particulièrement attendu, un smartphone avec un écran pliable, ce qui permet à la fois d'avoir un téléphone et ou une tablette. C'est sans doute la plus grande révolution depuis l'apparition des écrans tactiles, Sophie Jousselin.
Oui, c'est vrai que ça fait des années qu'on attend une vraie innovation dans le domaine des smartphones. Et d'ailleurs, le modèle que doit présenter ce soir Samsung avait été annoncé il y a environ 2 ans. Et il correspond effectivement à une nouvelle tendance du marché, car le Fold du géant coréen, to fold en anglais ça veut dire plier, n'est en réalité pas le premier smartphone pliable. Le fabricant chinois Royole, c'est confidentiel, a déjà lancé son modèle il y a quelques mois. Alors le concept de ces nouveaux téléphones est assez simple. Fermé, vous avez un smartphone classique. Mmh. Vous l'ouvrez comme un livre et vous avez une mini-tablette. Alors la performance technique étant qu'aucune charnière n'est apparente. Déplier l'écran est d'une seule pièce. En revanche, fermé, vous avez dans la poche ou dans votre sac un appareil pratiquement 2 fois plus épais et plus lourd que votre téléphone actuel. D'autres fabricants comme Huawei notamment sont sur le point de présenter leur modèle. Le prix de ces smartphones devrait être comme leur écran, c'est-à-dire XXL, entre 1500 et 2000 euros. On va dire que c'est le coût de l'innovation.
En fait, ça va coûter aussi cher que si on avait un smartphone et une tablette, finalement, presque.
Pas tout à fait, mais oui, ça va être cher de toute façon.
Merci Sophie, et on retrouve Pascal Praud, avec qui vous allez dialoguer dans 10 minutes alors.
Ben, j'ai écouté vraiment avec passion, intérêt, François Grosdidier, qui est le sénateur des Républicains, qui est membre de la commission d'enquête du Sénat, et on est quand même effarés. Les collaborateurs du chef de l'État ont menti comme des arracheurs de dents.
Enfin, c'est effrayant quand même, quand on l'écoute lui. Hein. Mmh. C'est-à-dire que non seulement Alexandre Benalla a menti, les collaborateurs mentent, et il te dit que s'ils n'avaient pas menti, s'ils avaient dit la vérité, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Ils auraient dit, voilà, monsieur Benalla est arrivé de la campagne, il s'est occupé un peu de la sécurité, mais c'est la police qui a gardé la haute main sur la sécurité du président, il n'y avait pas de souci. Mais ce sont d'authentiques menteurs. Et ça, je trouve que c'est effrayant. Je ne peux pas dire autre chose.
D'abord, la charge c'est pas... est violente. La
oui, et puis c'est pas... d'abord, je trouve ça effrayant pour plein... sur le plan moral, mais aussi, ce n'est pas très intelligent, manifestement, et tactiquement, c'est mal joué. Donc, c'est vraiment, c'est pas très malin. On parlera, bien sûr, des premiers gestes, premiers secours. Connaissez-vous les gestes qui sauvent? Et puis, cette question qui me passionne personnellement, pratiquez-vous le télétravail et non pas le travail à la télé, comme je le disais tout à l'heure.
Non, ça, il y a que contrairement... vous dans cette pièce. Ah, si, à Louis aussi.
Contrairement à Louis Baudin.
Et
pour quelle raison? Donc le télétravail, est-ce que le télétravail c'est une manière de... Bon, voilà.
Bah quoi? C'est un vrai travail, hein? Non, c'est génial, non, le télétravail.
Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que les gens chez eux en font moins que lorsqu'ils sont au bureau?
Bah, alors vous allez être surpris par les témoignages,
c'est peut-être
ils en
le
font
contraire.
Plus.
Bah, en oui, général, c'est ce ils qu'ils disent en tout plus. Cas, bien sûr.
Allez. Louis, c'est à vous, parce
qu'il
commence déjà l'émission. Oui. Une journée assez parfaite.
Oui, c'est vrai, hein. En tout cas cet après-midi, le soleil s'imposera partout, presque partout. Il restera quelques nuages en Normandie, Bretagne, peut-être localement dans le nord-est, mais globalement donc beaucoup de soleil. En tout cas, plus besoin du parapluie, ça vous pouvez le ranger durablement d'ailleurs. Et puis les températures vont commencer leur hausse cet après-midi, 11 à 15 degrés au moins dans la moitié nord et de 15 à 19 dans le sud.
Et demain, vous arrivez à faire encore
mais oui,
plus fort.
Je peux faire non. encore plus fort. Alors le matin, c'est vrai qu'il y a encore ici ou là quelques brouillards, notamment dans la moitié nord, et encore des gelées. Mais alors l'après-midi, plus de soleil et des températures qui vont encore grimper. On ira, on frôlera les 18-19 degrés dans la moitié nord demain après-midi. Retenez ça. Et puis dans le sud, bon, on atteindra les 20 degrés. On devrait même les franchir du côté du Pays Basque ou encore parfois dans la vallée du Rhône.
Merci Louis. Dans un instant, le rappel des titres avec Bénédicte Tassard. RTL. Il est 13h.
Le tout info des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. Le Sénat frappe fort et accable l'Élysée dans l'affaire Benalla. La commission d'enquête réclame des poursuites en justice contre Alexandre Benalla pour faux témoignages. Les incidents du 1er mai ne sont qu'en la partie immergée de l'iceberg, selon cette commission. Et les élus vont plus loin. La sécurité du président de la République a été affectée. Trois de ses proches collaborateurs sont mis en cause, soupçonnés d'avoir voulu étouffer un scandale. Le Sénat, par la voix du président de la commission Philippe Bas, pointe l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie de l'ancien chargé de mission de l'Élysée.
Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé et l'information du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Sanction insuffisante au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, maintien en possession d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. L'objet de notre travail était essentiel. Nous l'avons rempli, je crois, sereinement, mais sans inhibition, en toute indépendance. Car c'est une assemblée parlementaire libre, non alignée. Cette mission est essentielle. Nous l'avons remplie, je crois, sereinement, mais sans inhibition, en toute indépendance. Car c'est une assemblée parlementaire libre.
Philippe Bas au micro RTL de Dominique Tenza. La garde rapprochée d'Emmanuel Macron critiquée. Didier Paris, député La République En Marche de la Côte d'Or, estime que l'exécutif a bien réagi depuis cette affaire.
Je crois qu'effectivement, Benalla a bénéficié d'une forme d'autonomie au sein de l'appareil. Il faut limiter au maximum ce genre de situation dont on sait qu'elle peut toujours exister. C'est pas nouveau, ça a existé sous beaucoup d'autres gouvernements. L'exécutif a pris la hauteur du problème et a d'ailleurs pris des dispositions précises en la matière en refaisant l'organigramme, en revérifiant les niveaux de responsabilité des uns et des autres. Finalement, l'affaire Benalla pourrait être un bon élément pour rappeler les exigences en la matière et le gouvernement a parfaitement compris.
Didier Paris avec Marie-Bénédicte Allaire. Des tags antisémites découverts ce matin sur le monument aux morts du cimetière de Champagne au Mont d'Or près de Lyon. La suite d'une série d'actes antisémites après notamment la profanation d'un cimetière juif alsacien il y a 24 heures. L'homme ayant injurié le philosophe Alain Finkielkraut samedi dernier en marge d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, placé en garde à vue hier soir à Mulhouse. Le suspect pro-palestinien est un vendeur de téléphones du Bas-Rhin. Il s'est rendu à une convocation des enquêteurs. D'autres personnes sont encore recherchées. Dernière séance de négociation cet après-midi pour la réforme de l'assurance chômage et un échec en vue. Les syndicats veulent instaurer le bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats de moins de un mois. Le patronat dit non. Michel Beaugras, négociateur pour Force ouvrière, se dit ouvert mais déterminé.
Moi, je vais rappeler que Force ouvrière demande à ce qu'il y ait un bonus-malus dans cet accord. Les propositions du patronat, même si je suis très ouvert, c'est un peu de l'enfumage. Bah écoutez, moi j'ai l'impression surtout que le MEDEF essaye, avec ses propositions soi-disant alternatives sur les contrats courts, il protège les entreprises. On est encore très loin d'un accord. Moi aujourd'hui, en rentrant dans la négo, je ne sais pas ce qu'il en sera ce soir.
Michel Beaugras avec Anaïs Bouissou pour RTL. Pas de cérémonie à la mémoire de Karl Lagerfeld selon les volontés du couturier star décédé hier. Ses souhaits seront respectés selon un porte-parole de Chanel. Trois joueurs de l'Olympique Lyonnais cambriolés hier soir pendant le match contre Barcelone. Memphis, Toussaint, Diop, des bijoux et des vêtements de marque dérobés. Le préjudice n'est pas encore estimé. La Bourse de Paris, c'est l'heure de notre point quotidien avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et c'est la politique des petits pas à la Bourse.
Eh oui, un petit 0,3% de gain en ce moment à la Bourse avec un CAC à 5177. On sent toujours une certaine prudence sur le marché. Les investisseurs ont plusieurs sujets de préoccupation. Il est vrai, le nouveau cycle de discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le Brexit, les politiques monétaires des grandes banques centrales. Ce soir, le marché va découvrir le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Demain, ce sera le tour de la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, la croissance est en train de ralentir. Donc les boursiers espèrent une attitude plus prudente vis-à-vis des taux d'intérêt. En Europe, le marché attend que la BCE incite les banques à accorder davantage de prêts. Du côté des valeurs, nous sommes toujours en période de publication. Ce matin, Air France KLM a annoncé des résultats 2018 en recul, mais les perspectives semblent meilleures. Le titre gagne 4%. L'action M6 s'envole de 12% après un profit opérationnel record en 2018.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos.